RCF.
Non mais vous inquiétez pas, j'ai juste besoin de retrouver mon chemin intérieur.
Est-ce que vous trouvez que j'ai la tête d'une imbécile ?
Ah, ça c'est pas faux.
Santé.
Eh bien bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le petit cours habituel de détente et de culture. Mais rassurez-vous, il n'y aura pas d'interro surprise à la fin. Alors au tableau aujourd'hui, justement, exercice de maths, récitation, leçon d'anglais. Quel parent n'a jamais craqué quand il s'agit de gérer les devoirs à la maison ? À la maison, eh bien lui, il a ce qu'il faut pour surmonter cette épreuve et avec le sourire. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu présent dans la grande classe de Toudoux et sur les bancs direct de RCF Dialogue à Marseille, qu'on remercie tout de suite pour nous permettre ce duplex. Ça va, vous êtes bien installé, vous avez tout ce qu'il vous faut ?
Tout va très bien, oui, c'est parfait.
Tout va très bien. Alors, Thomas, sous votre vrai nom, Dominique Malinas, vous êtes auteur de bandes dessinées, dessinateur principalement et scénariste souvent, comme c'est le cas pour T'as fait tes devoirs, une série publiée chez Bambou Éditions, dont le troisième tome vient de sortir en mai dernier. C'est une BD où l'on suit le quotidien de deux parents confrontés aux fameux devoirs de leurs enfants. Il y a Tom en primaire et Lola au collège. Alors, comment est née cette saga qui n'oublie pas de mettre l'humour et aussi la pédagogie au programme ? Eh bien, on va le découvrir avec vous. Tout doux, les deux devoir à bonne école avec Thomas, c'est parti.
Tout doux avec Vincent Belletti.
T'en fais une tête, qu'est-ce qui va pas ? La maîtresse nous a donné plein de travail, j'ai pas envie. Allez, mon petit homme, courage, il faut rester motivé. Tu veux un conseil ? Oui, commence par le plus difficile. Ah bon ? Oui. Comme ça, ce sera plus simple et au fur et à mesure, tu garderas ta motivation, tu iras plus vite. Ok. Alors, ces devoirs, ça avance ? Non, 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 je suis toujours au plus difficile. Et c'est quoi ? Choisir lequel est plus difficile ?
Et oui, savoir par quoi commencer, c'est déjà très difficile. Extrait d'une de vos planches tirée du premier tome de T'as fait tes devoirs, et lu ici par Catherine Ségouffin. Thomas, comment elle est née justement l'idée de cette série ? Est-ce que vous aviez envie d'évacuer un lourd passé d'écolier traumatisé ?
Eh bien, ben tout d'abord, merci à Catherine Ségouffin. C'était un plaisir d'entendre cette petite
série. Et il y en aura d'autres.
Non, en ce qui me concerne, non, les devoirs ont jamais été vraiment compliqués. Moi, j'étais plutôt un bon élève et c'est plutôt l'inverse. Moi, j'ai pas beaucoup travaillé quand j'étais enfant. J'avais des bons résultats et je suis allé très loin avec ces bons résultats. Mais le problème a été quand il a fallu que je me mette à travailler, je savais pas comment faire. Alors, c'est arrivé très tard, hein, après le bac.
Ah oui,
alors
vous
mais
commencez
c'est
par
quand même arrivé un jour.
Savoir comment travailler en ayant bien fait les devoirs. Elle est née comment ? C'était une commande de Bambou ? Enfin, comment ça s'est passé, Bambou Édition ?
Alors c'est né non de 2 mois. Alors j'aime bien travailler avec cet éditeur et c'est un éditeur qui aime bien faire des bandes dessinées humoristiques et pédagogiques et chercher une idée. Et en fait, elle est venue tout simplement à la sortie du confinement après la fameuse école à la maison qui a duré pendant 3 mois. Je ne suis pas instituteur et mes filles étaient
ça a laissé des traces hein, chez les parents.
Oh oui. Ah bah oui, moi ça a laissé trois albums de bandes dessinées.
Ah c'est né d'ici alors du confinement
c'est
alors.
Né, ouais. C'est né du confinement. Ouais, l'idée c'était vraiment de bah voilà, comme je suppose beaucoup de parents, je me suis pas mal énervé et mes filles se sont pas mal énervées elles aussi quand on faisait ces devoirs à la maison, cette école à la maison. Mmh. Et l'énervement c'était pas bon, ça me plaisait pas. Et quand on est sorti du premier confinement et que se profilait le deuxième confinement, je me suis dit il faut que je trouve un moyen pour rendre tout ça plus léger. Mmh. Et pour rendre tout ça plus léger, bah, je savais que j'allais continuer à m'énerver, mais que je pouvais désamorcer ça dans l'humour. Et c'est de là qu'est partie l'idée. Après, il y a eu du travail pour aller vers quelque chose qui s'oriente vers les conseils et tout ça. Mmh. Mais vraiment, l'idée part de là, essayer de désamorcer les situations de crise qui sont nées des devoirs au sein de la famille.
Et c'est particulièrement réussi. Alors, on va revenir sur cette BD, mais avant, comme d'habitude, un petit retour dans le passé. Pour mieux vous connaître, Thomas, vous étiez alors non pas à Marseille, mais à La Tronche, près de Grenoble. L'année de la sortie de Schtroumpf Vert et Vert Schtroumpf de Peillot et Delporte, Astérix en Corse, Duderzo et Goscinny, mais aussi Chihuahua Perle avec Blueberry ou Les Oiseaux du Maître de la série Valériane de Mézières. Je ne sais pas si vous les avez tous lus.
Si, tous. Oui. Oui, oui, je pense que j'ai tous lu. Puis alors, vous choisissez vraiment des perles de la bande dessinée. Hein. C'est,
ah bah,
c'est
écoutez,
parfait.
Je crois que vous êtes né sous une bonne augure. Travailler dans la bande dessinée, est-ce que c'est un désir qui vous a pris tout de suite quand vous étiez petit ou c'est venu plus tard ?
Je m'en suis pas rendu compte. Je pense que depuis tout petit, je lis des bandes dessinées. Avant même de savoir lire, je feuilletais déjà Astérix ou Les Quatre As. Et puis, j'ai commencé à dessiner mes premières bandes dessinées vers 8 ans en essayant de faire comme Bouli Bill. Et Et puis je me suis jamais arrêté. Et puis il y a eu un moment dans ces études, justement, quand il a fallu que je me mette à travailler et que je reste assis des heures à une table pour réaliser quelque chose, je me suis rendu compte que ce que je voulais à ce moment-là, c'était faire des dessins et pas autre chose. C'était la condition pour rester assis à table. Alors forcément, ça a fait que mes études n'ont pas continué bien loin, mais qu'ensuite, je me suis orienté vers le dessin.
Alors, avant de faire des bulles, je crois que vous avez commencé par des chiffres, hein, orienté d'abord vers les maths, avec une maîtrise pour être prof ou chercheur. Hein. Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé finalement radicalement de case pour faire de la bande dessinée? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier, une étape particulière dans votre vie?
Je pense que ça doit être un peu comme toutes les professions artistiques. Un jour, c'est bête à dire, mais on n'a pas le choix. On ne peut pas faire autre chose. J'aurais pu effectivement être prof de maths ou éventuellement chercheur, mais je pense que c'était quand même largement plus difficile que ce que je pensais. Mais arrivé aux études, j'ai tout simplement pas pu aller au partiel parce que c'était impossible, il fallait que je dessine. Et ça s'est imposé de soi-même. Mmh. Après, avec le recul, je me suis rendu compte que j'étais peut-être un peu fou, et il faut probablement un peu de folie au départ pour croire qu'on va devenir artiste. Mais ça s'est imposé, tout simplement.
Ça s'est imposé. Alors, vous allez débuter dans le dessin de presse, hein. Vous me corrigez si je me trompe, mais chez Mickey, Télé 7 Jeux, Marseille, L'Hebdo, dessiné aussi pour des fanzines, hein, ces publications qui sont réalisées par des passionnés dans un certain domaine. En 2000, après les Love Love Beatnik de l'espace, vous publiez votre premier album professionnel, Voltige se marie, dans la série Voltige et Ratatouille. C'est une BD de science-fiction un petit peu décalée. Et puis aussi des albums un peu plus intimistes, hein, qui vont être portés sur la scène.
Super, c'était plein de poésie. On a été embarqué du début à la fin.
Ouais, c'est original. Pas l'habitude de voir le mélange BD, tout ça.
C'est beau, c'est magnifique. On se fait transporter, on décolle complètement.
Puis-je dire que c'est la deuxième fois que je le vois? Puis-je dire que la première fois c'était magique parce que c'était la surprise et j'étais content. Ils sont extraordinaires tous les trois, la musique elle est fabuleuse, le texte est exceptionnel. Non, tout est... Ouais, je pense que je reviendrai une troisième fois même.
Voilà, réaction de spectateurs enthousiastes à la sortie du spectacle Dans ta bulle, qui était basé sur toute une série d'albums qui racontaient des rencontres qui ont marqué votre vie. Litost, 3 minutes et souvenirs de moments uniques. Vous avez besoin de vous libérer par la bande dessinée, Domas?
Oui, je pense que c'est au départ pour ça que je fais de la bande dessinée. Au tout début, les toutes premières bandes dessinées que j'ai faites au lycée, ça racontait déjà des histoires de moi et mes copains, même si je déplaçais ça dans un univers de science-fiction ou quelque chose du genre. Il y avait vraiment une envie de raconter ma vie, je pense, de sortir un petit peu tout ce que j'avais en moi. Et puis rapidement d'ailleurs, ça a pris du temps, mais finalement c'est ce qui m'a intéressé dans la bande dessinée, c'était raconter des histoires qui m'étaient proches. Et donc pendant longtemps j'ai fait de l'autobiographie, effectivement, Dans ta bulle, le spectacle de Jocelyn Flipeau et
avec trois acteurs, oui.
Adapte ces trois bandes dessinées. Et puis quand j'ai eu mes enfants, en fait, mes deux filles, j'ai eu l'envie de pouvoir faire des bandes dessinées qu'elles pouvaient lire, puisque ce sont encore des enfants. Mmh. Et c'est là que j'ai basculé vers des bandes dessinées plus jeunesse, mais qui de la même manière avait quelque chose d'assez proche. J'ai notamment adapté des contes, mais les contes me renvoient à ma propre enfance. J'ai fait cette série sur les devoirs, mais qui est surtout une série familiale. L'idée, c'est vraiment de mettre en scène des choses que je comprends, que je conçois et que je peux partager.
Une production, c'est vrai, très diversifiée. Hein. Ça va de la mise en image de contes, hein, comme vous l'avez dit, comme Le Petit Chaperon Rouge. Ça va au thriller Dans la vie en rouge, en passant par l'enfance, comme Gaspard, petit garçon rêveur. Il y a la famille, comme Les Aventuriers de la Carotte Perdue, soit une famille qui essaye de se mettre au système locavore, ou encore l'illustration de personnages comme Bob Marley, les Rolling Stones ou encore Michael Jackson. Il y a aussi le handicap, la différence, qu'on retrouve souvent aussi dans vos albums. Il y a la série Ambre et Arnaud, c'est la rencontre entre une jeune fille sourde et un garçon entendant. Également dans le livre de Fred, hein, dont on parlera tout à l'heure, ou le syndrome du petit pois avec une maman atteinte d'une maladie apparentée à Alzheimer. En quoi le handicap, c'est aussi important pour vous de le mettre en image?
Le hasard des rencontres et de la vie, en fait, puisque ça fait partie maintenant de ma vie depuis une bonne trentaine d'années, on va dire. Quand j'ai arrêté mes études pour devenir dessinateur, j'envisageais pas du tout de trouver un travail dans le dessin. J'étais pas suffisamment bon dessinateur suivant ce que je pensais. Et le hasard a fait que j'ai trouvé à l'époque ce qu'on appelait les emplois jeunes dans une association qui forme à la langue des signes. Et c'est comme ça que j'ai découvert le monde des sourds et par extension le monde du handicap, que j'ai jamais quitté, puisque après avoir quitté donc l'association Le Verso qui était à Marseille, qui formait la langue des signes et dans laquelle je faisais des dessins pour illustrer les cours de langue des signes, je participe depuis cette époque, donc ça fait quasiment 25 ans, à un journal qui s'appelle Vite Lu, qui est diffusé dans les communautés sourdes, mais aussi pour les publics, les personnes âgées en EHPAD notamment, toutes les personnes en difficulté de lecture. Je participe à l'association L'Hippocampe, je fais partie de l'association L'Hippocampe qui organise un concours de bande dessinée et un festival de court-métrage pour les publics handicapés et par les publics handicapés. Au départ, c'est le hasard, et puis une fois qu'on rencontre ce monde, eh ben, on se sent concerné. Donc comme on est concerné, on reste, parce qu'on a quelque chose à faire.
Si on regarde aussi votre graphisme, hein, il est aussi très différent d'un album à l'autre, hein, c'est assez poétique en noir et blanc, c'est à peine esquissé dans Litost, c'est plus, on va dire, dessin animé dans Anton l'éléphant, peintre ou dynamique, énergique, un peu la façon des profs pour ta fête et devoir. Ça vient d'où cette diversité de styles? C'est en fonction de l'album, de l'histoire, de ce que le scénariste vous demande?
Ça va s'adapter effectivement à ça, où la forme va correspondre au fond. On va dire qu'au départ, moi, mon école, mes références, c'était des personnages comme les Schtroumpfs, Joanne et Pierre-Louis, tout ce qui est l'école franco-belge, on va dire. J'aspirais à faire ça, et puis au bout d'un certain temps, n'arrivant pas, et là je vous parle du début des années 2000, mais n'arrivant pas à m'imposer auprès d'un éditeur avec ce style-là, j'ai voulu retrouver le plaisir tout simplement de dessiner. Et je me suis lancé dans une sorte de journal intime que j'ai poursuivi pendant des années, dans lequel je faisais le dessin comme ça me venait. Donc là, j'ai stylisé mon dessin, synthétisé les traits, ce qui donne d'un côté le style qu'il y a dans Litost, 3 minutes, ou ces romans autobiographiques, et puis d'un autre côté, un dessin plus soigné, plus grôné, qui va correspondre au franco-belge.
Plus grôné, vous dites.
Pour les grôné, oui, c'est comme ça qu'on classifie.
C'est comme ça qu'on dit pour désigner le style Astérix, ou Achille Talon.
Exactement.
Ok. Votre actualité, c'est donc la sortie de ce troisième tome donc, de Ta fête et devoir, on va s'y mettre, juste après une première page musicale que vous avez choisie pour nous, hein, comme on le demande à tous nos invités. Et en l'occurrence, c'est Oiseau de Laurent Barden et Tigre d'eau douce avec Bertrand Belin. Vous nous expliquez ce choix, Domas?
Ah, ça fait partie des musiques qui me permettent de dessiner en me concentrant. Je peux à la fois, du coup, je peux être complètement concentré sur mon dessin, et le fait de chanter en même temps que lui, pas tout le temps, mais quand même, me permet de contrôler ma respiration. C'est le genre de musique où je plane complètement, mais je peux rester complètement focalisé sur le trait que je suis en train de faire.
Pas en apnée quand même, pas trop longtemps.
Ça peut arriver dans les virages du trait.
D'accord. Eh bien, on va partir à la recherche, ou plutôt la poursuite de cet oiseau de Laurent Barden et Tigre d'eau douce. On se retrouve tout de suite après pour faire nos devoirs.
Je survolerai les villes.
Oiseau de Laurent Barden et Tigre de Douce avec Bertrand Belin, Le Choix ailé de Dominique Malinas alias Domas, auteur de bande dessinée qui publie chez Bambou Éditions le troisième tome avec cette question. Le soir, au fond du salon, est-ce que t'as fait tes devoirs ?
Papa, je sais pas si je dois continuer de réviser ma leçon.
C'est ton seul devoir ?
Oui. Tu as bien compris ce qu'on te demande ?
Bah, je sais pas. Justement, si tu as compris, alors tu as fini.
Mais ça veut dire quoi, comprendre ? Comprendre, c'est pouvoir répondre à quatre questions concernant ton devoir. Qui, quand, quoi, où ? Mais alors j'ai fini ?
Ah oui ?
Alors, pour ton devoir, la réponse aux questions, c'est quoi ? Qui, mon prof ? Quand, hier ? Où, dans la classe ? Quoi, apprendre ma leçon ?
Voilà, si tout était aussi simple pour faire ses devoirs, extrait d'une des planches qu'on peut retrouver dans cette série déclinée en trois tomes. Alors on est donc plongé dans le quotidien d'une famille de jeunes parents d'aujourd'hui avec leurs deux enfants, Lola qui est au collège et Tom en primaire. Comment vous l'avez imaginé cette famille ? Qui vous l'a inspiré ? Elle est sortie comme ça de votre imagination ou vous avez eu des références parmi vos proches ?
Elle est venue directement de ma famille, plus ou moins, on va dire. Il y avait une toute première version en fait de cette bande dessinée où j'avais fait deux familles, où j'avais mis des caractéristiques typiques à l'une et d'autres caractéristiques typiques à l'autre. Et j'ai proposé ça à mon éditeur et c'est lui qui m'a dit en fait tu devrais faire plus simple, tu devrais vraiment aller chercher au plus proche de toi. Mmh. Et du coup en fait j'ai pensé à alors forcément à ma famille, moi je suis marié, j'ai deux filles, mais aussi à ma famille en ascendant, c'est-à-dire je suis fils et j'ai deux parents. Et c'est tout cet ensemble-là que j'ai mis en scène dans cette petite famille de quatre personnes, en ajoutant les grands-parents, puisque les grands-parents existent aussi dans cette configuration.
Ouais, mais le grand-père, il n'est pas d'un grand secours. Hein. Le pépé, c'est plutôt l'école buissonnière hein, qu'il apprend à son petit-fils. C'est vrai qu'il n'a pas gardé un très bon souvenir de l'école. Alors, c'est vrai que dans cette série, on a droit à toutes les situations que peuvent rencontrer les parents, faire apprendre une fable de La Fontaine, à tel point que l'enfant va la réciter tout le temps au point de vous casser les oreilles. Raconter ses vacances. Alors, la prochaine fois, on restera à la maison. Il y aura moins à rédiger. Postillonner à tous les vents quand il s'agit de prononcer « the » en anglais, s'épuiser en salle de gym pour rester calme après au moment des devoirs, enfin j'en passe et des meilleurs. D'où viennent tous ces gags de votre expérience personnelle ? Vous avez campé dans le salon d'une famille pendant plusieurs mois.
J'ai campé dans mon salon à moi.
C'est tout du vécu, non, c'est tout ce que vous avez vécu vous-même ou
c'est un mélange.
Oui.
On va dire que c'est un mélange de vécu, alors de vécu qui m'est propre, hein, effectivement mes réactions directes avec mes enfants ou encore une fois les souvenirs de moi plus jeune, dans les exemples que vous avez donnés, notamment il y en a quelques-uns. En général, le gag vient pas exactement tel qu'il est écrit dans la bande dessinée, c'est-à-dire qu'il va y avoir plutôt une situation, ma fille va me dire quelque chose et puis ça va me faire penser à, je vais me dire tiens ce moment est drôle mais il manque la chute, ce qui fait qu'un gag de bande dessinée est un gag de bande dessinée, c'est une chute. Donc les chutes en général sont, on va dire, soit la chute a été vue dans ma vie et à ce moment-là j'ai fait l'histoire avant, soit l'histoire m'a plu mais elle n'a pas de chute et je l'ai rajoutée. Mmh. Et puis après il y a toute une troisième série qui doit faire à peu près la moitié de l'album où au contraire je vais m'orienter sur des conseils en particulier. Puisque dans le travail autour de l'album, il y a aussi toute cette idée de donner des conseils pour faire les devoirs. Et je vais avoir une liste de vrais conseils qui m'ont été apportés par Adrien, qui a travaillé avec moi sur cet aspect-là.
Et qui nous rejoindra tout à l'heure d'ailleurs, Adrien Vallée-Rouhoux, qui est professeur des écoles, hein, qu'on aura en ligne pour nous donner ces conseils. Donc vous avez mis en pratique ce qu'il vous disait comme conseil.
Oui, j'ai à partir des conseils qu'il m'a donné ou vers lesquels il m'a orienté, je me suis dit comment ça pourrait dégénérer, comment ça peut amener une situation drôle. C'est-à-dire, on cherche à faire ce conseil, appliquer au devoir, il va être bien, mais si on l'applique à autre chose, est-ce que ça sera bien ou est-ce que ça va faire un gag ? En l'occurrence, ça fait un gag.
Est-ce que vous avez un exemple de situation, de petits trucs que vous avez découvert à travers ces conseils que vous avez illustrés, qui vous vient en tête ?
En particulier, alors si je réfléchis sur le fait d'aérer par exemple la chambre régulièrement, le fait de ne pas avoir plusieurs écrans à la fois, de se concentrer sur une seule chose, le fait de se nourrir particulièrement, de bien prendre un petit déjeuner le matin avec si possible différents aliments qui vont soutenir par exemple la mémoire ou l'énergie. Il y a des tas de petits conseils comme ça il y en a même énormément auxquels on pense pas et qui peuvent s'avérer très utiles. Je le constate en fait chez mes filles justement qui ça fait maintenant quasiment deux ans que la première bande dessinée est sortie. Je les vois mettre au point parfois des petits trucs qu'elles ont fait dedans, ouais, ranger leur chambre, enfin ranger leur bureau d'une certaine manière, ou faire des dessins, ou faire des voilà. trucs.
Vous allez sauver la mise de pas mal de parents, hein, de masse à travers cette bande dessinée. En tout cas, si les parents sont là, il faut dire qu'ils ne sont pas toujours à la hauteur.
À partir de la chronotophotographie de la chute verticale d'une bille, déduisez pour proportionnalité, énergie cinétique, carré de la vitesse. Ouh là là. Écoute ma puce, il faut se rendre à l'évidence, ça devient trop compliqué pour moi la physique. Mais comment on va faire? Il faut bien que quelqu'un m'aide. On va devoir envisager des cours particuliers. Ah oui, super idée! Si tu veux, je peux demander à Mélie le numéro du prof que ses parents ont choisi. Allez, allô Mélie? Tu peux me passer le 06 de ton prof de physique, s'il te plaît? Non, 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 c'est pas pour moi, c'est pour ma mère. Elle a besoin de se mettre à niveau pour m'aider.
Voilà, le 06 d'un prof de physique pour remettre sa mère au niveau en physique-chimie. Alors c'est vrai qu'en tant que parent, on a beaucoup perdu. Je ne sais pas si vous l'avez constaté à titre personnel, Domas. Surtout à partir du collège. Hein. C'est vrai que ça commence à devenir plus difficile.
Bah cet exemple-là, effectivement, est directement tiré d'une conversation entre mon épouse et ma fille aînée. Ouais. Alors, la chute n'est pas la même, hein. Ouais. Je l'ai rajouté, mais c'est vraiment, effectivement, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on ne peut plus suivre. Mmh. Ou à l'inverse, moi, c'est plus l'inverse. Moi, j'ai toujours aimé les maths, et moi, c'est l'inverse. Ma grande, maintenant, refuse que je lui fasse faire ses devoirs de maths, parce que j'y mets trop de cœur. Et puis, elle veut juste faire ses devoirs, pas
plus. Qu'on sait pas que papa les fasse à sa place. Domas, on va continuer à parler de ses albums, mais lundi, on passe aussi chez le médecin avec une petite ordonnance de conseil santé. C'est avec le docteur Pascal Douex, spécialiste en nutrition et prévention du vieillissement. Et aujourd'hui, on vient prendre la taurine par les cornes.
Quoi de neuf, docteur?
Tout va bien.
Merci, docteur.
Tout doux, mieux dans mon corps.
Et bonjour, Pascal.
Bonjour, Vincent. Bonjour, Dominique.
Alors Pascal, la bande dessinée de Domas vous a, semble-t-il, inspiré car vous êtes intéressé aux boissons énergisantes que certains adolescents et jeunes adultes consomment pour aider à mieux se concentrer.
Oui Vincent, vous connaissez bien évidemment cette célèbre boisson vendue en canette et dont l'utilisation est très décriée pour ses effets cardiovasculaires et cérébraux. Mais c'est surtout son utilisation couplée à l'alcool qui est préoccupante.
Et que contient donc cette boisson précisément ?
Contient un cocktail d'actifs qui ont des propriétés stimulantes, comme la caféine, le D-glucuronolactone, des vitamines, des extraits de plantes comme le ginseng et le guarana, et enfin de la taurine, un acide aminé qui donne son nom à la boisson.
Et quels sont les effets supposés donc de cette boisson ?
Alors elle posséderait des propriétés stimulantes tant au niveau physique qu'intellectuel, mais il faut savoir quand même qu'aucune étude n'a vraiment démontré une efficacité sur les performances cognitives.
Donc aucune efficacité démontrée sur la mémoire ou la concentration, et pourtant elle est bien consommée, hein, cette boisson. Où et comment est-ce qu'elle est utilisée ?
Eh bien, selon une enquête réalisée en 2011 par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, l'ANSES, environ 32% des consommateurs de boissons dites énergisantes les consomment lors d'occasions festives, dans les bars, les discothèques, les concerts, etc. 41% en lien avec une activité sportive et 16% en mélange avec l'alcool.
Et alors, quels sont donc les effets secondaires à risque, d'après vous ?
Ils sont principalement d'ordre cardiovasculaire, des sensations d'oppression ou de douleur thoracique, de la tachycardie, de l'hypertension, des troubles du rythme pouvant aller jusqu'à l'arrêt cardiaque, et d'autre part des effets psychocomportementaux ou neurologiques, comme une irritabilité, une nervosité, de l'anxiété, voire des crises de panique, des hallucinations et de l'épilepsie. Pour toutes ces raisons, ces boissons ne doivent pas être consommées par les enfants et les adolescents, et encore moins associées à de l'alcool.
Voilà pour le message de prévention. Cela dit, parmi ces ingrédients, Pascal, c'est la taurine qui a retenu votre attention. De quoi s'agit-il exactement ?
Il s'agit d'un acide aminé naturellement présent dans notre organisme et dont la concentration décline avec l'âge, avec jusqu'à 85% de perte par rapport au sujet jeune. Cette perte de taurine chez l'homme est associée à la survenue de maladies liées au vieillissement.
Alors, est-ce qu'il faut prendre de la taurine quand on vieillit ? C'est une question qui a intéressé une équipe de chercheurs indiens et australiens. Ils ont mené une étude sur l'animal qui vient tout juste d'être publiée dans la revue Science. Quels sont les résultats ?
Eh bien, la supplémentation en taurine améliore la force, la coordination et les fonctions cognitives, mais surtout, elle permet d'allonger la durée de vie des vers et des souris étudiés avec une augmentation respective de 10 à 23% chez les uns et de 10 à 12% chez les autres. Mais avant de se précipiter sur la taurine, il vaut mieux attendre que les, comme les chercheurs le précisent dans leur étude, que des recherches supplémentaires et des essais cliniques soient menés chez l'homme.
Voilà, en attendant donc, si je résume, mollo sur les canettes. Je rappelle que vous êtes l'auteur des nouvelles clés de la longévité, c'est paru chez Le Duc. On peut faire le plein de conseils santé vérifiés, validés sur votre blog déclicattitude.com. Merci Pascal, toujours en super forme et sans taurine, qu'on retrouvera donc la semaine prochaine. À bientôt Pascal.
Merci Vincent, la semaine prochaine.
T'es connu ?
Hein, quoi ? C'est la récré ?
Au tableau, je vais t'apprendre à dormir en cours.
Oh, pour ça, j'ai pas besoin de prof.
Doudou avec Vincent Belletti.
Voilà, qui aurait bien besoin d'un petit sursaut d'énergie. Vous avez reconnu l'élève du Cobu dans ses œuvres. Dommage, je sais pas si c'est des petits trucs pour garder la forme en dehors de cette canette dont nous tairons le nom.
Alors je m'applique depuis peu effectivement à bien déjeuner le matin, chose que je faisais pas pendant des années, et je me rends compte que ça change quand même beaucoup de choses, et du coup j'essaye de faire que mes filles, avant d'aller à l'école, alors avec une il n'y a pas de problème, elle prend son petit déjeuner, mais l'autre a moins envie, donc je cherche des moyens de lui donner envie de grignoter un petit truc avant d'aller en cours pour garder un peu d'énergie. Ouais. C'est vraiment là que moi j'ai trouvé quand même quelque chose qui me permet de me mettre en train.
De vous mettre en train, en tout cas des techniques et des astuces efficaces pour apprendre mieux, eh bien on va vous en donner dans quelques minutes avec celui qui vous a accompagné de ses conseils dans vos 3 albums sur les devoirs. À tout de suite.
Tout doux, une émission de Radio Notre-Dame et RCF, présentée par Vincent Belletti.
Anaïs, tu as fait tes devoirs, ma chérie? Viens, on va aller regarder les petits exercices amusants que ta maîtresse a prévus pour nous pourrir la soirée. Non, mais t'inquiète pas, mon cœur, ce soir, maman va rester très calme.
Et oui, difficile de rester zen comme Anou Roumanoff quand il s'agit de gérer les devoirs à la maison. Heureusement, il est là pour nous aider à surmonter cette épreuve et avec le sourire. Lui, c'est Dominique Malinas, alias Domas, auteur de BD qui publie chez Bambou Éditions T'as fait tes devoirs, 3 albums dont le dernier tome est sorti en mai dernier. Alors pour résoudre cet exercice souvent de haute tension et de haute voltige, je vous ai fait accompagner d'un expert et justement, il est avec nous. Bonjour Adrien Valeroux.
Bonjour Vincent Belotti, bonjour Domas.
Voilà, vous connaissez.
Bonjour Adrien.
Voilà. Merci de nous avoir rejoints. Alors, vous êtes professeur des écoles, auteur de plusieurs manuels scolaires et enseignant à l'INSEAC, qui est l'Institut National Supérieur de l'Éducation Artistique et Culturelle. Un mot peut-être sur cet établissement. Il est situé où et à qui est-il destiné?
On est un établissement national qui devrait être à Paris si on respecte toutes les logiques, mais on fait un peu différemment. Quand on parle de culture, on aime bien être ancré dans un territoire et nous sommes au cœur de la Bretagne, à Guingamp. Nous formons des étudiants de Master 1, Master 2, des doctorants aussi, sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation artistique et culturelle, c'est-à-dire essayer d'amener le plus d'enfants, le plus de jeunes vers la fréquentation culturelle, les musées, la connaissance, les pratiques artistiques. Et pour cela, il faut former des gens, il faut faire de la recherche, et c'est l'esprit de notre institut. C'était aussi l'esprit de ces conseils, parce que finalement, tout va ensemble. On a envie de donner du plaisir aux enfants, même dans une activité qu'ils n'aiment pas forcément au départ, c'est-à-dire les devoirs à la maison.
Voilà pour les présentations. Alors à la fin des albums de Domas, il y a plusieurs conseils pédagogiques que vous donnez aux parents et aux enfants pour gérer ces fameux devoirs. On va en détailler quelques-uns. À commencer par cette question qui paraît banale, où faire ses devoirs?
Et oui, Domas en parlait tout à l'heure, bien aéré, mais je parlerai surtout de la lumière. En fait, avoir plusieurs sources de lumière, c'est bon pour notre cerveau. Et on se rend compte que parfois, nos enfants font leurs devoirs dans leur petit coin, à peine éclairé. Et ça, c'est beaucoup plus difficile de se concentrer. Donc, trouver un endroit plutôt sain et plutôt éclairé et lumineux, c'est très important. Être au calme aussi, vous savez, on en parle dans la BD, mais Marcel Proust était totalement angoissé par le bruit environnant. Il avait fait poser du liège dans sa chambre pour pouvoir écrire au calme. Il faut être au calme pour réussir à se concentrer.
Donc au calme, hein, comme Marcel Proust avec ses bouchons en liège, et puis avec de la lumière, lumière naturelle ou lumière artificielle, l'important c'est d'avoir de la lumière pour vous.
Voilà, deux sources c'est bien. Si on est près d'une fenêtre et qu'on a aussi sa petite lampe de bureau, alors c'est peut-être pas toujours très écolo, hein, chacun verra ce qu'il veut faire, mais plusieurs sources de lumière c'est très bien pour le cerveau, il en a besoin. Tout ça, c'est lié à la vitamine D. Mmh. La lumière, c'est très important. Et je rebondis sur Domas, ces petits déjeuners. Mais effectivement, manger du poisson, manger du beurre, faire le plein de vitamine D, on sait que c'est très utile pour la mémoire.
Alors, il y a une autre question qui a son importance, Adrien Valetrou, c'est quand faire ses devoirs, en quoi garder une régularité horaire, c'est important.
En fait, je m'appuie sur les rituels. Si vous voulez, un enfant ne se pose plus la question du fait qu'on mange le midi. À un moment donné, c'est devenu un rituel et ce n'est pas remis en question. Je pense que notre cerveau a besoin de se conditionner. Quand on fait ses devoirs toujours au même moment, tous les jours, il n'y a plus la question d'esquiver, de dire oh, « laisse-moi encore regarder un épisode, laisse-moi faire ci », de se retrouver un dimanche soir à avoir tous les devoirs à faire. Donc, moi, ce que je conseille aux parents, c'est de trouver un horaire qui correspond bien à l'enfant, c'est-à-dire il est rentré de l'école, il a eu le temps de s'amuser, de discuter avec vous, de se détendre. Et puis on va, par exemple, vers 17h30, 18h, commencer les devoirs pour 20 minutes, je parle pour les petits. Et trouver un horaire tous les jours le même, c'est une des clés aussi pour réussir. Alors on s'appuie sur la BD sur Roald Dahl, le fameux écrivain, qui lui était comme un chronomètre, un minuteur si vous voulez. Chaque jour, il écrivait le matin et l'après-midi, il s'occupait de ses animaux parce qu'il avait une ferme. Alors, je conseillerais aux enfants de faire la même chose. Essayez de faire vos devoirs toujours au même moment et puis un jour, ça deviendra naturel. Et ce sera, la concentration arrivera d'autant plus vite.
Voilà, se donner un horaire précis et puis s'y tenir. Hein, on se dit quoi, 20 minutes, une heure et après on passe à autre chose. Hein, Adrien Valetrou, c'est pas question de jouer les prolongations parce qu'autrement on n'en finit plus.
Exactement. Nos enfants aujourd'hui passent déjà 6 heures, quasiment 6 heures à être assis par jour. Donc on va pas mettre une dose énorme de travail derrière. Je dirais que pour les primaires, 20 minutes tous les jours, c'est très bien. Au collège, au lycée, malheureusement, on est obligé parfois d'aller jusqu'à une heure. Mais il faut travailler fréquemment, mais pas sur des longues durées. Il y a un moment donné, la vie de famille, il y a autre chose que l'école aussi à faire.
On va continuer dans les questions. Comment retenir ses leçons? Comment faire travailler sa mémoire? Ça peut passer par plusieurs biais, comme celui-ci, écoutez.
J'en ai marre, j'y arriverai jamais. Qu'est-ce qui se passe, mon petit homme? J'ai plein de devoirs différents. Maths, géo, histoire, poésie. Comment tu veux que je retienne tout ça? Du calme, mon petit homme. Tu vas y arriver. Ah oui? Et comment? Je lis, je relis, je retiens rien. Il y a d'autres moyens de faire travailler sa mémoire. Certains utilisent leur mémoire visuelle. Ils résument leurs leçons avec un petit dessin qu'ils mémorisent bien plus facilement. D'autres ont besoin d'utiliser leur mémoire auditive. Entendre leurs leçons à voix haute va les aider. En fait, pour la mémoire, tous les sens peuvent t'aider. Il suffit de trouver celui qui est pour toi. D'accord. Du coup, je vais essayer la mémoire gustative. Le chocolat pour les maths, le soldat pour la poésie, le chewing-gum pour l'histoire.
La mémoire gustative, ça peut marcher aussi, Adrien Valetrou, pour retenir ses leçons.
Ça marche très bien. On a même un pâtissier en France qui s'appelle Pierre Hermé. Ouais. Et il est hyper mnésique des saveurs. Dès qu'il mange quelque chose, ça lui rappelle un ingrédient qu'il a connu quelque part. Oui, probablement, si on avait des petits macarons à chaque leçon, on apprendrait d'autant mieux. Mais pour être un peu plus sérieux et réaliste, oui, il faut utiliser tous ses sens. C'est vrai que se réciter un texte, par exemple, debout ou en marchant dans sa chambre, ça peut être quelque chose. Alterner les moments où on va faire une gestuelle. Les cartes mémoire, on en parle aussi beaucoup dans le volume 3.
Oui.
Faire des cartes mémoire.
Avec une question, c'est une question, si je me permets, c'est une question donc on met sur le recto et verso on a la réponse. C'est ça, hein, c'est un jeu, en fait. Oui.
C'est le système des flashcards. On met une question, par exemple, quelle est la devise de la France? Et puis au verso, on écrit la réponse en rouge, liberté, égalité, fraternité. Et puis on joue, alors éventuellement avec ses parents ou avec un frère, une sœur, on tire la carte, on essaie de répondre à la question. Parfois on la tire dans l'autre sens, on a la réponse, on essaie de retrouver la question. Là on va faire travailler un chemin dans le cerveau qui est un aller-retour entre la connaissance et la question et on va assurer une bonne mémorisation. Il y a une deuxième technique qui marche très bien, ce sont les cartes mentales. Alors Aristote parlait du palais de la mémoire, c'est-à-dire que pour lui, à l'époque où l'écriture ne s'était pas diffusée, il fallait imaginer un palais et dans chaque pièce, il y avait des informations différentes et on pouvait retenir un nombre incroyable de choses. Le système de la carte mentale, c'est dessiner des mots-clés, y mettre de la couleur et en fait, on spatialise la mémoire. Et ça aussi, ça marche très bien. Et c'est un côté très ludique parce que plus on va faire une carte mémoire, plus on va faire une carte mentale, pardon, jolie, stylisée, mieux on va retenir les informations dessus.
Alors, il y a d'autres techniques que vous retenez, que vous donnez pour, comme séquencer son travail, travailler peu mais souvent, aider à la concentration. Alors, vous donnez des petits exercices, hein, comme le réveil du chat. Et puis, surtout, ce qui revient dans les deux albums, c'est savoir se récompenser après les devoirs. En quoi c'est important, cette notion de plaisir à venir ?
Bien, on a dans le cerveau ce qu'on appelle le circuit de la récompense. C'est-à-dire que quand on aime faire quelque chose, généralement, on aime aussi le partager. Et puis, il se passe quelque chose dans notre cerveau qui fait que on a plaisir à le faire, on le retient d'autant mieux. Alors, je m'appuie sur certains artistes, par exemple Alexandre Dumas, ou alors une autre artiste qui fait de la BD, qui s'appelle Manon Ita. L'idée, c'est de se dire qu'à la fin des devoirs, on va faire quelque chose qui nous plaît, se accorder un petit plaisir, jouer au foot, ou aller jouer avec sa sœur, ou aller faire autre chose. Mais avoir cet objectif-là, c'est très bien. Et vous, alors, qu'est-ce que vous allez faire après l'émission ? Vous avez déjà...
Ah bah moi je vais me prendre une bonne infusion de réglisse menthe, parce que c'est ma petite récompense, tout bêtement, si je peux me permettre. Mais percez à jour, Adrien. En tout cas, vraiment, ça me fait plaisir. C'est vrai que vous citez le cas d'Alexandre Dumas, qui, après avoir écrit Les Trois Mousquetaires, se précipitait en cuisine pour se préparer des bons petits plats pour lui et ses invités. C'était son plaisir personnel. Voilà, alors,
c'est incroyable, parce que juste Alexandre Dumas, c'est son dernier manuscrit, c'est un livre de recettes.
De cuisine.
Donc c'était très important. Pourtant, le plaisir. Comme on parle de plaisir, je voulais juste remercier Thomas, parce que je ne l'ai pas souvent au téléphone, d'avoir rendu les devoirs amusants. Et je trouve que c'est important parce que c'est un peu un oublié de l'école. On n'apprend pas forcément en classe à faire ses devoirs chez soi. Et là, d'une façon hyper humoristique, on peut avoir des conseils, mais on peut aussi bien rigoler, parce que la plupart des pages, c'est des planches à sketch et il y a de quoi rire beaucoup sur ce sujet. Donc, merci Thomas et bravo.
Ben merci à toi, Adrien, pour m'avoir aidé.
Voilà pour le compliment. En tout cas, moi, je vous remercie, Adrien Valet-Rouhou. Je rappelle que vous êtes professeur des écoles et enseignant à l'INSEA, qui est l'Institut National Supérieur de l'Éducation Artistique et Culturelle, et vous conseille donc à retrouver ou à télécharger en fin de ces albums à T'as fait tes devoirs. Ça pourra donner des pistes aux parents et aux enfants. Dans un instant avec vous, Thomas, on va parler d'un autre domaine que vous avez illustré. Ce sera tout de suite après une deuxième page musicale. Après L'Oiseau de Laurent Bardane et Tigre d'eau douce, et ben vous nous proposez Arcade Fire, Rabbit Hole. Vous nous expliquez ce choix de lapin dans son terrier ?
Alors, indépendamment du titre, ceci dit, quoi, quand on va faire ses devoirs, on va un petit peu dans un terrier. Le rabbit hole, d'ailleurs, j'ai appris que c'est le fait de ne pas arriver à décrocher de son écran quand on rentre sur Internet et puis que du coup on passe d'une pastille à une autre. Là, en fait, c'est un peu pareil. Là, tout à l'heure, je vous disais que la musique précédente me permettait de respirer pendant que je dessine. Celle-là me permet de bouger, c'est très dansant. Alors, je danse pas en dessinant, mais ça me permet de temps en temps me laisser emporter par la musique et poser mon stylo. Alors, c'est pas quand je vais faire un travail très précis d'ancrage, mais quand je crayonne, etc., ça me rappelle qu'il faut que je fasse des pauses et je me fie un peu à la musique de temps en temps pour bouger les bras et bouger les jambes.
Eh bien, on va bouger les bras et les jambes avec vous, Arcade Fire, Rabbit Hole, et on se retrouve tout de suite après pour parler d'un autre type d'album que vous avez illustré.
Rabbit Hole.
Yeah.
Plastic soul.
Yeah.
Rabbit hole.
Yeah.
Rabbit hole.
Yeah.
Heaven is so cold. I don't wanna go. Father in heaven sleeping. Somebody delete me. Ha-dee-ha-ha, Johnny Snow and Star, Land again, you can come, Maserati sports car. Rabbit hole, plastic soul, it's a real rabbit hole, yeah, rabbit hole, yeah, yeah.
Le choix de Domas ou Dominique Malinas, auteur de bande dessinée qui publie le troisième tome de Ta fête et devoirs, soit comment gérer les devoirs à la maison à travers le cas de Tom et Lola, élèves respectivement de primaire et de collège, et sous l'œil parfois un peu dépassé de leurs deux parents. Alors, vous ne vous êtes pas seulement intéressé au milieu scolaire, mais aussi au le milieu du handicap à travers ce personnage.
Des bandes dessinées, Fred en dévore depuis qu'il sait lire. Comme tous les gamins, il a ses héros, il les connaît par cœur. Pas pour moi, maman, je suis tombée dedans quand j'étais petit. Puis est arrivée cette envie très forte de passer de l'autre côté de la planche. On dirait bien que tes schtroumpfs sont plus réussis que les miens. Alors comme beaucoup de gamins, il a décidé de faire ses propres BD. Même s'il sait qu'il n'a jamais exactement été comme les autres gamins.
Voilà, Fred, pas comme les autres. Fred, soit Frédéric, un auteur de bande dessinée qui a vraiment existé, décédé il y a quelques années de la maladie de Charcot, et auquel vous rendez hommage dans le livre de Fred, toujours paru chez Bambou Éditions. Qui était donc ce Fred, Domas ?
Alors, Fred était un ami déjà, que j'ai rencontré il y a une dizaine d'années dans le cadre du jury du concours BD de l'Hippocampe. Donc Fred lui-même était handicapé de naissance, il avait pas respiré à la naissance, du coup il avait un handicap psychique. Mais un handicap invisible, quelque chose qu'on remarquait pas. Fred avait donc commencé sa vie de jeune adulte comme menuisier dans un ESAT de menuiserie. Un ESAT, c'est un établissement de professionnel dans lequel des personnes handicapées sont employées, sont des salariés et sont entourées de professionnels qui les aident à travailler parce que ce sont des personnes qui sont pas autonomes. Et Fred, donc, dans cette ESAT de menuiserie, participait au concours de bande dessinée de l'Hippocampe. Il l'a gagné cinq fois d'affilée, je crois. Il a eu cinq fois un Hippocampe d'or.
Ouais, même au point que même le jury disait il faut faire un prix, mais sans Fred. Hein.
Oui, parce qu'il
gagnait tout
tous.
Le temps. Et donc, il a quitté les planches de bois de l'atelier où il était employé pour dessiner ses propres planches de BD et décrocher donc ce prix et aussi travailler à l'atelier du Marquis qui dépend de l'ESAT Images Graphiques lancé par l'ADPI de Charente. Quel est le rôle Exactement. De cet atelier ? Parce que c'est vrai que ce n'est pas très connu, hein, cette filière-là, Domas.
Alors, c'est le seul ESAT d'art graphique en France actuellement qui est situé à l'atelier du Marquis à Angoulême. Donc Fred, ayant gagné cinq fois le concours, montrait qu'il méritait largement de rentrer dans cet atelier. En fait, il travaillait à son bureau, donc dans une salle entourée de dessinateurs professionnels, notamment Jean-Luc Loyer, qui était pas vraiment son tuteur, mais qui travaillait avec lui. Et le rôle de l'ESAT est en fait de chercher des gens qui vont avoir besoin de travaux institutionnels, comme je ne sais pas, des
plans publicitaires,
ces choses pour lesquelles on a besoin de dessins. Et les employés de l'ESAT Art Graphique sont là pour fournir les dessins. Donc Fred va travailler pendant 10 ans dans cet ESAT, entouré de dessinateurs professionnels, eux-mêmes auteurs de bandes dessinées, ce qui lui a permis aussi de développer des projets de bandes dessinées.
Qu'est-ce qu'on peut conclure de son parcours qui est vraiment étonnant, que vous retracez dans ce livre ? Handicap et bandes dessinées, c'est pas incompatible. On peut travailler, on peut gagner sa vie en étant handicapé et en faisant donc des bandes dessinées. C'est ça qui est assez extraordinaire.
Quel que soit le rêve, je pense que l'idée de cette bande dessinée, c'est de dire quel que soit le rêve qu'on a, pour peu qu'on soit bien accompagné et qu'on soit motivé, et ça c'est indépendant du handicap, on peut y arriver. On peut y arriver dans certaines mesures, dans certaines limites, mais on peut y arriver. Et Fred était professionnel. Après,
très perfectionniste, parce qu'il passait des heures et des heures sur une planche, et puis finalement ça lui allait pas, il recommençait, c'est ce qu'on voit dans cette bande dessinée.
Oui. Ouais. Oui, oui, oui. Et puis alors, ce qu'il y a de beau dans cette histoire, c'est que le principe même en général des ESAT, d'ailleurs, c'est que au-delà du fait de faire de quelqu'un un professionnel de son métier, quel que soit le métier, l'objectif est de permettre à cette personne de s'insérer dans le tissu social, de s'insérer dans la société, de vivre de manière la plus autonome possible. Fred, en ce sens-là, était une réussite. Il a vraiment non seulement réussi son métier, mais à la fin, à Angoulême, tout le monde le connaissait. Il l'appelait par son prénom quand il allait chercher sa baguette. Donc, c'est vraiment un moyen d'émancipation qui marche.
Ouais. Fred, quand il disait qu'il allait faire ses courses, alors on pensait qu'il allait au supermarché, mais non, il allait dans une librairie pour acheter des BD. C'est comme ça qu'il faisait ses courses. C'est assez amusant. Il y a beaucoup d'humour dans ce livre que vraiment je vous recommande. Alors Fred, il est malheureusement plus là, mais son héroïne, la justicière Spectra, elle continue d'exister grâce à toute une série de couvertures d'albums qu'ont imaginé une dizaine d'auteurs de bandes dessinées, enfin, de cet album, le livre de Fred, et c'est vraiment émouvant. Le livre de Fred, c'est à retrouver aux éditions Bambou. Voilà pour ce petit clin d'œil à Fred. Alors Domas, on a une tradition dans cette émission. C'est une petite boîte qu'on va tout de suite ouvrir ensemble.
La boîte à tout doux.
Alors, dans les mains, j'ai un petit coffret en bois et à l'intérieur, il y a des cartes que je vous montre. Au dos de chacune, une question pour mieux vous connaître. Alors, le principe, il est simple. Je vais battre ce jeu. On va tirer trois cartes au hasard. Je vous lirai la question correspondante. Vous allez dans un jeu de cartes si ça ne vous inspire pas. Mais de toute façon, il n'y a rien d'indiscret. Alors, je remets le jeu de cartes. Est-ce que vous êtes prêts pour la première ?
Je suis prêt.
Alors, je tiens la première. Si vous étiez un animal, ce serait quoi ?
C'est un oiseau, je pense.
Oui, comme la chanson tout à l'heure.
Quel oiseau ?
Oui.
Oui, pouvoir voler, je pense que l'idée... pour voler. Je crois que l'idée de voler dans les airs et de... Même si j'en ai très peur, hein, j'ai très peur en avion. mais voilà, l'idée de ne pas avoir peur de voler et de voler tout seul... Me plaît beaucoup.
Voler, c'est une manière aussi de prendre du recul sur ce qui vous entoure, si j'essaie de faire ma petite Mireille Dumas.
Alors, ça doit être ça. Je le vois plus comme étant le fait de flotter. J'imagine, alors peut-être un petit peu comme quand on rêve, ça arrive, je pense, à peu près à tout le monde de rêver qu'il vole, et on vole jamais vraiment, on est plus en train de flotter sur les courants, les courants d'air. J'aime bien cette idée. Alors, il y a certainement
cette histoire de prendre du recul. Flotter comme ça, mais de se laisser aller, lâcher prise, c'est ça ?
Exactement, oui, je pense. Bon, ça.
Pourquoi pas ? Alors, je vous déconseille de vous lancer du quatrième étage. Hein. Attendez de vous voir pousser des ailes.
Non.
En tout cas, un oiseau.
J'attendrai d'être un oiseau.
Voilà, exactement. Allez, je continue de brasser le jeu de cartes. Vous m'arrêtez quand vous voulez.
Alors, top.
Allez, je tire. Votre plat préféré ? Est-ce que vous avez un plat préféré ?
Alors, de but en blanc, je vous dirais le chili con carne. Mais bon, en fait, c'est plus celui-là.
Ah,
mais
ça, c'est très marseillais, hein, comme recette.
Ça doit être un des premiers plats que j'ai réussi à faire et que j'ai dû faire à des amis en les invitant quand j'étais étudiant. Donc, du coup, ça a dû devenir mon plat préféré. Ouais. Puis, ça se réchauffe bien. On peut le manger pendant une semaine si on en fait beaucoup.
Et comment vous êtes tombé sur le chili con carne, un peu par hasard
J'ai eu la chance de partir. je le fais tout seul. Non, j'ai eu la chance de partir avec ma tante, avec la sœur de ma mère, dans la réserve des Indiens Navarro aux États-Unis d'Amérique quand j'avais 20 ans. Ouais. Et je me souviens que ça doit être par là que j'ai mangé un de mes premiers chili con carne qui m'a bien fait pleurer, d'ailleurs, je pense.
Très épicé.
Très, très fort. Ouais. Mais ça me renvoie aussi à ce souvenir de désert et de voyage assez incroyable.
Allez, on va tirer une dernière carte. Je continue de brasser le jeu. Vous me dites quand vous voulez que j'arrête de le remuer.
Eh bien, je dirais donc stop.
Stop, allez. L'objet dont vous auriez du mal à vous séparer ?
Un crayon.
Oui, ça j'imagine.
Enfin, mes lunettes tout d'abord, parce que ça ne me servira à rien d'avoir un crayon sans lunettes. Mais je dirais un quelque chose pour dessiner, oui. Ben oui, c'est vraiment un besoin chez moi qui est difficilement... je ne pourrais pas l'enlever, quoi. Je ne pourrais pas enlever de stylo.
C'est-à-dire que vous travaillez avec un crayon, mais est-ce que vous êtes passé au numérique après pour les couleurs, pour les dessins ?
Non. Alors je finalise sur l'ordinateur, mais je crayonne au crayon. Ensuite, j'encre traditionnellement, soit à la plume, soit au pinceau, soit au feutre. Puis je scanne. Et là, il y a le travail de couleur qui, lui, va être fait sur écran. Mais je fais en général pas mes couleurs. Je travaille avec une coloriste ou avec un coloriste. Parfois, je fais mes projets pour les dessins de presse. Je fais moi-même les couleurs. Mais c'est vraiment cette seule étape qui est faite à l'ordinateur. Après, j'hésite à me mettre à des outils graphiques. De plus en plus de dessinateurs et de dessinatrices font ça. Ils travaillent sur écran. C'est très pratique, mais je crois que j'aime le contact avec la feuille, même si la tablette arrive à faire croire au cerveau que c'est une feuille. J'aime l'idée d'avoir un original. Et il n'y a pas d'original sur une tablette numérique, en fait. Tout est virtuel.
Donc le crayon à l'ancienne, hein, pour démarrer vos dessins. Très bien. Écoutez, merci d'avoir répondu à ces questions. On va refermer la petite boîte. On la ouvrira demain pour notre prochain invité. On se retrouve dans quelques instants pour terminer cette émission.
Tout doux avec Vincent Belletti.
Non mais sérieux, à quoi ça sert de faire ses devoirs? On apprend déjà suffisamment à l'école, non? C'est pas la même chose, Tom. Faire ses devoirs, c'est important pour devenir autonome et mûrir. Ça apprend l'autodiscipline, la gestion du temps, l'organisation, le sens des responsabilités. Et ça fait du petit homme un grand homme. Tu comprends? Autonome, alors ça veut dire qu'il peut se débrouiller tout seul, c'est bien ça? Eh oui, sans sa maman. Et quitter la maison. Sniff. Oh, et puis viens, on va jouer.
Et oui, les devoirs, ça nous casse les pieds, mais ils n'ont qu'un temps. Et plus tard, vous regretterez ces devoirs en tant que parents, parce que les devoirs, c'est sûr, c'est compliqué, mais c'est un temps d'échange et de relation qui est précieux. C'est ça aussi que vous avez voulu montrer derrière ces trois albums, Domas?
Je pense que c'est surtout ça, effectivement, que j'essaye de montrer au fur et à mesure de la création des albums. Le premier a donc un an et demi. Au début, je mettais un petit peu de tendresse dans les pages. Et puis, de plus en plus, c'est vers ça que je tire. C'est montrer quand même que c'est un moment qui nous relie entre nous, qui est pas forcément agréable, mais comme la plupart des choses, toutes les choses qui nous relient sont pas forcément agréables. Mais vraiment, j'essaye de souligner la tendresse qu'il y a à partager, qu'il peut y avoir en tout cas, à partager ensemble ce moment un peu difficile.
T'as fait tes devoirs, le troisième tome vient donc de paraître chez Bambou Éditions, et vous pouvez aussi glisser les deux premiers dans le cartable de votre enfant. Je pense qu'il sera ravi et ça lui fera pas de mal non plus. Merci Domas d'avoir participé à cette émission. Merci aussi à RCF Dialogue à Marseille qui nous a permis ce duplex, à Thomas Jagu qui a bien fait ses devoirs. Il les a si bien fait qu'il est devenu réalisateur technique de cette émission. Quelle progression! Allez, on lui met 10 sur 10. 10 sur 10 aussi à Catherine Ségouffin pour l'exercice de lecture à haute voix de vos bandes dessinées. Merci encore une fois Domas. Alors si vous aimez
Merci
le jazz version oui. Edda Fitzgerald, vous allez être comblé avec notre invité Robin McQuell après le soul et le folk. Et bien cette chanteuse d'origine américaine vient de sortir Impression d'Ella, soit une reprise des plus grands standards de la First Lady of Song, et c'est particulièrement envoûtant. Domas, on va se quitter avec votre dernier titre, ça s'appelle Calm Down de Rema. Vous nous expliquez ce dernier choix?
C'était pour finir juste en dansant tout simplement ensemble. Ça a été un grand plaisir
danser,
d'être
alors.
Avec vous. Oui, j'aime bien. C'était un grand plaisir. Je vous remercie infiniment pour cette émission.
Merci Domas. On était très heureux de faire connaître votre talent justement. Et je pense que vraiment vos BD vont vraiment faire plaisir aux parents qui n'en peuvent plus côté devoir. Ça va permettre de prendre un petit peu de recul. Merci. Allez, on se quitte avec Calm Down. Et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon début de soirée à l'écoute de RCF et de Radio Notre-Dame. Pourquoi pas en faisant les devoirs avec vos enfants à la maison.
My heart's for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Girl, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No, tell me, no, 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 oh, 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 oh. Baby, gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like, whoa, 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 whoa. Shawty, gon' give me your lo, 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 lo. I say me got a small one.